Bienvenue à chacun. Merci d'être venu, d'avoir réservé une partie d'après-midi pour cette réunion. Merci à Frédéric qui nous rejoint et on l'accueille avec plaisir. J'allais dire année après année, c'est peut-être déjà la troisième année. On se réjouit de l'enseignement. Il donnera quelques nouvelles de sa famille tout à l'heure. Je crois que Philippe enregistre les cours, donc si vous en sautez un, ou si quelqu'un vous connaissez en saute, hein, vous pouvez aussi lui communiquer. Je propose qu'on prie pour commencer cette réunion. Seigneur, avant toute chose, merci. Merci pour ta présence, ton esprit dans nos cœurs qui nous fait dire « Abba, Père, nous t'appartenons ». Merci pour cette occasion de se réunir entre frères et sœurs, avec Frédéric, en toute liberté, sans crainte. Merci pour la santé que tu nous donnes. Nous voulons avoir une pensée pour ceux qui ne l'ont pas, Seigneur, qui sont retenus aussi. Tu bénisses, tu encourages, tu guérisses. Merci pour le salut, pour la vie éternelle, pour cette vie avec toi, Seigneur, qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir en toi, nous voulons nous être fortifiés par ce message cet après-midi. Nous voulons aussi, par nos vies et nos paroles, fortifier d'autres aussi, les amener au salut. Seigneur, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, et nous voulons être des lumières, des témoins de ta parole. Bénis ces instants, Seigneur, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Oh, Frédéric, je te laisse la place.
Voilà, bonjour à tous. C'est encore un grand plaisir d'être avec vous. La dernière fois, je crois que c'était en octobre ou novembre, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Voilà, donc quelques nouvelles, on va dire. Vous avez pour la plupart, je ne sais pas, certains en tout cas reçoivent ma lettre de nouvelles. Si certains sont intéressés, je profite de le dire, vous pouvez me donner votre adresse et je pourrai vous l'envoyer. C'est la fin de l'année et cette année a été plus particulièrement éprouvante pour moi. Je l'ai écrit dans ma lettre de nouvelles. Hein. J'ai eu un février en particulier, vraiment des moments de doute et de découragement. Pas forcément des circonstances qui ont permis ça, mais... C'est arrivé comme ça, on va dire, l'attaque de l'ennemi. Merci Seigneur, en tout cas, les doutes, tout ça, se sont estompés, donc on continue, on poursuit. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis papa de 4 enfants. Ma fille aînée a 21 ans, un garçon qui a suivi de 19 ans, une autre fille de 17 ans et une dernière fille de 14 ans. Voilà. Donc j'étais veuve, je suis remarié depuis 4 années avec Christine. Il y a des personnes qui m'ont dit au mois de la dernière fois que je suis venu, la prochaine fois, ils vont se reconnaître d'ailleurs parce qu'ils sont là, la prochaine fois tu viens pas sans ta femme, hein. Alors je me fais gronder parce que je suis venu encore sans ma femme. Mais bon, j'espère qu'elle aura l'occasion de venir. C'est vrai que c'est pas évident pour elle. Elle travaille la semaine aussi, puis le week-end, elle a besoin de se reposer, alors, prendre la route, le train, c'est pas évident. Mais elle est de tout cœur avec nous. Voilà, donc je me réjouis de partager ce livre de Jonas avec vous. Je suis un peu déçu et je regrette parce que j'avais une vidéo en parallèle. Il se trouve que je suis passé sur Macintosh depuis le mois de novembre. Alors si quelqu'un connaît ou a un Macintosh en portable, ça nous intéresserait pour ce soir et demain. Mais bon, voilà. Sinon, ben, il n'y en aura pas. Tant pis, je vais faire ça, mais je peux faire ça. Il y a quelques explications peut-être qu'il faudra que je donne un peu plus explicites. Voilà, je sais que vous avez déjà un petit peu partagé sur ce livre de Jonas l'année dernière, il me semblait, qu'on avait un petit peu parlé. Donc c'est bien parce que vous l'avez déjà un petit peu en tête, cette histoire. Donc il y a des choses que vous allez peut-être réentendre et j'espère qu'il y a des choses nouvelles que vous allez découvrir aussi au travers de ce beau livre très court mais extraordinairement riche. Donc je vous invite encore à la prière pour vraiment remettre cette parole entre les mains du Seigneur. Oui, que ton nom, Seigneur, soit béni et nous te prions particulièrement, Seigneur, pour que ta parole puisse prendre corps dans notre esprit et devenir réellement cette nourriture cet après-midi. Merci pour ce livre de Jonas. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos oreilles pour que nous puissions comprendre, Seigneur. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors, le livre de Jonas est le livre le plus connu des 12 petits prophètes grâce à sa fameuse histoire du poisson. J'en parlerai ce soir, du poisson, qui effectivement lui donne un attrait, on va dire, tout particulier. Mais Jonas, nous le verrons, ce n'est pas seulement l'histoire d'un poisson ou d'un homme dans un poisson, c'est aussi et particulièrement la révolte d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui refuse d'obéir à un ordre de Dieu. Il y a quelque chose déjà qui doit nous titiller l'oreille et notre intelligence. Comment cela peut-il se faire? Et nous verrons que Jonas est un homme de caractère qui ne se soumet pas facilement à la souveraineté de Dieu. Mais combien nous pouvons parfois lui ressembler? Nous essaierons de comprendre les raisons qui font que le prophète va devenir assez contestataire et de tirer des leçons et des exhortations pour nous aujourd'hui. On sera peut-être surpris alors de voir cette richesse de ce livre et des enseignements pratiques auxquels il va nous permettre de prendre. De par son nom donc qui signifie la colombe, Jonas, colombe, ça c'est intéressant parce qu'en fait il est porteur d'un message de paix, qui est souvent représenté par la colombe. Les Ninivites vont donc comprendre qu'il est vital pour eux de faire la paix avec le Dieu de Jonas, que ce dernier est venu, non sans mal, on le verra, leur présenter. Mais la particularité du livre de Jonas par rapport aux autres livres prophétiques de l'Ancien Testament, c'est qu'il n'y a pas une abondance de prophéties. L'auteur nous raconte simplement une histoire, pas banale certes, mais la seule prophétie qui nous est donnée, elle est au chapitre 3, et c'est la plus courte de tous les prophètes de l'Ancien Testament, à savoir encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est uniquement la prophétie donnée dans ce texte, dans ce livre. Il est mis dans les livres prophétiques, bien évidemment, parce que Jonas est un prophète, mais ici, en fait, ce n'est pas forcément la vie, une prophétie qui est développée, c'est la manière dont l'homme réagit par rapport à un ordre de Dieu et l'obéissance qu'il a ou qu'il n'a pas. Car Jonas est un homme qui a déjà fait ses preuves, c'est un gars qui est de Gat-Hépher, petite ville de Galilée, située à 5 kilomètres de Nazareth. Et nous lisons dans le deuxième livre des Rois, la seule mention de Jonas en dehors de ce livre, 2 Rois, chapitre 14, et on peut lire à partir du verset 25, c'est donc sous le règne de Jéroboam, verset 25, Jéroboam rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gat-Hépher. Donc il a prophétisé quelque chose qui s'est réalisé. Il était donc connu comme étant un prophète de l'Éternel, déjà. Donc lisons le premier chapitre de ce livre. Je découperai donc l'étude en trois parties, bien évidemment. Première partie, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 1, ce soir le chapitre 2, et demain matin le chapitre 3 et 4, qui me semblent être ensemble. Donc je lis à partir du verset 1er, du chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya donc le prix du transport, et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu ?» Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Rien ne nous est dit sur l'auteur de ce livre. Bien que Jonas ait dû, ou a dû être vraiment la source principale des informations contenues dans ce récit, il n'en est pas forcément l'auteur. Sans doute l'histoire, et ô combien cette histoire est particulière, s'est-elle répandue en Israël. Toutefois, l'auteur a bien pris soin de rédiger son écrit de manière assez structurée, et c'est une structure qui apparaît un petit peu dans chaque chapitre et qui s'intitule un chiasme, c'est-à-dire on a une idée qui est au centre et qui est mise en parallèle avec des idées identiques. Il y en a une seule qui est au centre, où il se passe un événement au centre qui est ce que l'auteur veut mettre en avant. Alors c'est là que la vidéo est intéressante, parce qu'il y avait tout le plan tel qu'il est mentionné. Mais en fait, l'idée centrale qui se trouve dans ce chapitre premier, c'est le moment où Jonas se trouve tout seul, à fond de cale, et qu'il dort. Et vous avez dans ce chapitre d'autres pensées parallèles qui amènent un petit peu à focaliser l'attention sur le sommeil de Jonas. Et ce sera notre première pensée cet après-midi, le sommeil de Jonas, que j'ai envie d'intituler « Le sommeil du juste », entre guillemets le juste, hein, parce que dans sa situation, c'est pas tout à fait clean vis-à-vis de l'obéissance qu'il doit avoir ou devrait avoir devant son Dieu. Comme je l'ai déjà un petit peu laissé sous-entendre, le premier verset va donner le ton à tout le livre. Et on est surpris, peut-être même choqué. Comment donc un prophète de l'Éternel peut-il tourner le dos, peut-il refuser un ordre de mission que l'Éternel lui donne? Et à ce titre, Jonas est un cas unique par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament, où des prophètes ont discuté avec Dieu, n'ont pas été d'accord, ont essayé de comprendre, etc. Mais jamais prophète n'a réagi comme celui-là va le faire. Il s'enfuit, verset 3, loin de la face de l'Éternel. Et il est intéressant de remarquer la manière dont il fuit. Il se trouve en Israël, en fait, Et si, je ne sais pas si vous pouvez regarder votre carte en fin de Bible, c'est intéressant de voir, vous avez une carte qui doit être plus générale en fait, une des premières, où vous avez le pays d'Israël. Eh bien, il est envoyé à Ninive, c'est-à-dire en Assyrie. C'est aujourd'hui, on dirait, l'Irak actuel. Vous voyez un petit peu, vous situez l'Irak. Dieu veut l'envoyer là. Donc, si vous prenez votre carte, c'est sur la droite, hein, dans le désert, vers l'Irak. Eh bien, que fait Jonas? Il descend au port de Jaffa, de la Méditerranée, et il s'embarque vers et sur la Méditerranée, vers l'Espagne. Donc en fait, littéralement, il tourne le dos à Ninive. Hein? C'est vraiment un acte symbolique, hein? Montrer à Dieu, non seulement je n'irai pas, mais en plus, regarde, je prends la direction opposée, complètement opposée, pour essayer de m'éloigner le maximum de l'endroit où tu veux m'envoyer. C'est là que on se rend compte à nouveau cette force de caractère de Jonas et cette liberté en même temps qu'il prend vis-à-vis de l'ordre de Dieu. Mais tout est calme lorsqu'il va sur le bateau et qu'il quitte le port. On va dire une mer d'huile au départ. Équipage et passagers, on va dire, sont heureux, préparent à une traversée somme toute banale. Et Jonas, lui, n'a que faire de ceux qui sont autour de lui, n'a que faire peut-être de certaines distractions qu'il pourrait y avoir sur le bateau, car il n'était pas le seul voyageur, hein, passager qui partait. Lui, qu'est-ce qu'il fait? À peine monté, il s'isole, il descend à fond de cale, il recherche la tranquillité d'esprit, et j'ai envie de dire peut-être même le repos de sa conscience. J'y reviendrai dans un moment à cela. Et soudain, la brise se transforme en vent, et en vent, en bourrasque. Le texte nous dit qu'il y a une grande tempête, imprévue. Les marins qui connaissent un petit peu le ciel, etc., et qui ont l'habitude, n'auraient jamais pris la mer, n'auraient pas pris le risque de prendre la mer s'il y avait eu un avis de tempête, ou s'ils avaient senti cela. Le navire est donc, nous dit le texte, violemment ballotté. Les marins qui sont des professionnels à bord ont eux-mêmes peur. Et pour que des marins habitués à la mer aient peur, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une terrible tempête. Ils vont même jusqu'à implorer chacun leur Dieu en poussant, en demandant à tous ceux qui sont sur le bateau de faire de même. J'y reviendrai. Car ils se doutent bien que cette tempête soudaine ne peut être que la conséquence d'une colère divine. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas quel Dieu a été offensé. Il y a donc cet esprit-là de crainte de quelque chose, de quelqu'un qui agit avec une puissance énorme. Tout le monde donc est prié à s'adresser à son Dieu. Quant à Jonas, lui, toujours à fond de bateau, hein, il continue de s'isoler, il va dormir du sommeil du juste, entre guillemets. Vous en conviendrez quand même, ce n'est pas une attitude très logique et très banale, et elle nous étonne. Et j'ai envie de dire, nous voilà confrontés à la même question du capitaine du bateau qu'il adresse à Jonas, quand il se rend compte qu'il est tout seul en bas. « Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi dors-tu » Sous-entendu, fais comme les autres, implore ton Dieu, ne t'isole pas. Il y a un commentateur qui interpelle et traduit par « Que fais-tu, dormeur ?» ou bien « Et quoi, tu dors ?» traduira la semeur. Alors Jonas, la force tranquille. Pas du tout. Il n'a que l'apparence de la tranquillité. Son sommeil est une fuite. Et je l'affirme par rapport à l'ensemble du livre et à la manière dont Jonas réagit et réagira une fois qu'il sera à Ninive. Nous le verrons au chapitre 4 en particulier. Il fuit. Il fuira toujours. Et nous essaierons de comprendre pourquoi. Mais nous le sentirons de mieux en mieux au fur et à mesure que nous avancerons dans l'étude. Alors, au sujet de l'attitude de Jonas ici, je me permets un bref témoignage. Il y a parfois des expériences de la vie qui nous rendent plus sensibles à certains passages de la Bible. Et des histoires ou des versets qui ne nous disaient rien peut-être dans le passé ou pas grand-chose, tout à coup nous parlent et nous interpellent parce que nous avons vécu quelque chose de particulier dans notre vie. Ainsi, le sommeil de Jonas m'a interpellé de façon particulière. Et je me permets ce témoignage concernant ma première épouse, qui est décédée il y a 8 ans maintenant, et qui était dépressive, au point qu'il a fallu plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Et j'avais à ce moment-là, et je découvrais à ce moment-là, mais ça durait pas mal d'années, cette terrible maladie que j'avais beaucoup de mal à comprendre et à supporter, au départ en tout cas. Mais je remarquais la chose suivante, c'est que chaque fois qu'elle commençait à ne pas aller bien, à tomber un petit peu dans cette dépression, la première réaction, c'était l'isolement. Et particulièrement, le noir et le sommeil. Elle pouvait rester dans son lit des journées entières, sans en sortir. C'est un signe qui ne trompait pas avec le temps et l'expérience. Le sommeil devenait petit à petit comme une seconde nature, dans le but suivant, soit de fuir en tentant d'oublier ce qui faisait mal et ronger à l'intérieur, soit d'espérer un miracle que, une fois qu'on se réveille, eh bien les choses auront changé, soit enfin de rechercher cette tranquillité et ce repos de l'esprit, conscient qu'au réveil, il faudra lutter à nouveau face à cette maladie. Et nombreuses sont les personnes qui sont dans ces attitudes et qui souffrent terriblement. Je profite au passage de dire que c'est réellement une maladie qu'il faut prendre en compte de cette manière-là. C'est important. Sinon, on n'est d'aucune aide hein, pour ces personnes qui souffrent terriblement. Mais je m'empresse de préciser la chose suivante. C'est que je ne suis pas en train d'essayer de prouver ou de dire que Jonas est un dépressif. Non. Je crois qu'il est dans une phase peut-être de réflexion importante et qu'au fond de lui, il n'est pas à l'aise avec ce qu'il est en train de faire par rapport à l'ordre de Dieu, non. Mais avec ce que j'avais vécu et ce livre-là, je me disais, mais ça m'a interpellé dans ce sens. Je me disais, est-ce que Jonas n'est quand même pas en train d'essayer d'endormir un petit peu sa conscience pour essayer justement de faire en sorte que la réalité sorte un petit peu et ne soit plus devant ses yeux, parce qu'il ne veut pas obéir à l'ordre de Dieu. Donc il va essayer d'oublier cela, d'occulter cela. Le problème, c'est que Dieu va le rappeler à l'ordre de plusieurs manières, et la première va être effectivement cette tempête. J'avoue que, connaissant mon caractère et mon tempérament, ce n'est peut-être pas forcément la première réaction que j'aurais d'aller simplement dormir à fond de cale en attendant que les choses se passent. J'aurais plutôt envie de combiner des scénarios, de prétexter des excuses, de chercher des excuses à rétorquer à Dieu si ce dernier me reprend en disant « Oh, Frédéric, pourquoi tu vas pas là-bas? Je te demande d'aller là-bas. » En disant « Non, mais j'y vais pas parce que. » Et Jonas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort du sommeil du juste. Et il dort. Alors, apparemment, il s'endort. C'est assez paradoxal comme situation, assez étonnant. Mais je crois que Jonas dort, premièrement, pour oublier. En plus de fuir Dieu physiquement et géographiquement, on l'a vu, il tourne le dos à sa mission, il s'enferme dans cet état qui pourrait lui faire oublier sa décision et particulièrement ses conséquences. Sortir de la réalité. Parce que on ne peut pas penser que Jonas n'ignore pas que Dieu n'a pas été honoré par sa prise de position. On ne peut pas l'imaginer. Il le sait, il sait très bien ce qu'il fait. Prise de position, d'ailleurs, qu'il ne regrette absolument pas à ce moment précis, mais qui, je suis convaincu, le travaille au fond de son cœur. Il désobéit à Dieu. Dormir pour oublier. Oublier cette situation devant Dieu, c'est-à-dire qu'il est un prophète, qui n'en est pas sa première mission, nous l'avons lu tout à l'heure. L'auteur, bien évidemment, de ce livre ne relate pas la totalité de son ministère, mais il veut simplement rendre attentif ses futurs lecteurs que nous sommes à une situation donnée et qui est relativement particulière. C'est certainement, j'ai envie de dire, dur pour le prophète de rompre son contrat avec Dieu, parce qu'il le rompt, ce contrat, en tournant le dos à sa mission. Mais cette fois, l'ordre du patron lui paraît trop injuste. Nous essaierons d'en donner une explication lors de notre troisième rencontre demain matin. Mais ce qu'il veut peut-être oublier, c'est aussi sa responsabilité. Jonas, restant à fond de cale alors que la tempête sévit en haut, sait très bien que c'est à cause de lui que la tempête est là. Nous l'avons compris, nous l'avons lu, même l'équipage se rend compte que cet événement inattendu est extraordinaire dans sa fureur, pourrait bien être la cause d'un châtiment divin. Ils implorent chacun leur Dieu. Ça fait penser à l'apôtre Paul, qui à un moment donné, lorsqu'il arrive à Athènes, voit cette stèle à l'entrée de la ville, où il était nommé, marqué « à un Dieu inconnu ». Les Athéniens étaient tellement superstitieux que par peur d'avoir oublié une divinité, eh bien, on avait érigé cette stèle sur laquelle on apportait des offrandes. On ne sait jamais si on en avait oublié un, eh bien, celui-là, il se reconnaîtra. Eh bien, c'est un petit peu dans la même situation ici. Je l'ai dit tout à l'heure, chacun implore son Dieu. Qui a été offensé, on ne le sait. Qui nous attire ce malheur? N'est-ce pas? Question. Qui, verset 8, attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Lorsque Jonas est mis en avant par le capitaine et que le sort tombe sur lui, comme par hasard, c'est lui le fautif. Qui nous attire ce malheur? Il faut qu'il y ait un coupable. Là encore, nous pensons peut-être à une histoire du Nouveau Testament qui est intéressante. Lorsque Jésus arrive dans une bourgade avec ses disciples et qu'il rencontre un aveugle de naissance. Vous connaissez cette histoire? La première réaction des disciples, première question des disciples à Jésus est la suivante. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Il faut qu'il y ait une responsabilité parce que c'est pas normal. Et Jésus de répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. D'ailleurs, comment aurait-il pu lui pécher dans le ventre de sa mère déjà? Mais ce n'est pas que lui ou que ses parents aient péché pour qu'il soit né ainsi. Mais c'est pour que la puissance de Dieu se manifeste au travers de lui. Combien d'injustices apparentes à nos yeux, en tout cas, face à des cas particuliers, sont mises en avant pour manifester la gloire de Dieu. J'ai eu récemment sur Internet le témoignage, peut-être vous l'avez eu d'ailleurs, je ne sais pas qui me l'a envoyé, de cet homme, un gars de l'Est, qui est né sans bras et sans jambes. Ça vous dit quelque chose pour certains? Donc on voit son témoignage, c'est intéressant de voir ce qu'il dit, et entre autres, c'est un fils de pasteur qui est né comme cela, juste une tête et un tronc. Bien évidemment, au départ, il ne comprenait pas sa situation et il s'est demandé « mais pourquoi ?» Pourquoi je suis né comme ça? L'Église, bien évidemment, avait prié pour lui, et lui pensait qu'en fait, un jour, Dieu lui redonnerait ses membres et qu'il pourrait, au travers de ce miracle extraordinaire, pouvoir parler de lui. Et Dieu lui a fait comprendre que non, Dieu allait se servir de lui comme il est aujourd'hui. Et c'est en lisant, il le dit dans ce témoignage, le récit de l'aveugle de naissance dans Jean 9, dont j'ai fait allusion, qu'il a pris conscience que Dieu allait manifester sa gloire au travers de lui tel qu'il est. Et c'est un gars qui aujourd'hui est un évangéliste, et c'est assez étonnant de voir comment il peut témoigner, et ô combien son témoignage est profond, parce qu'il a donné sa vie au Seigneur lorsqu'il avait une quinzaine d'années, je crois, et maintenant il sert Dieu. Donc quand il est dans les églises, eh bien, on le porte littéralement, on le pose sur la chair, et il prêche l'évangile. Qui? Pas forcément. Pas de coupable, pas toujours, pas systématiquement. C'est la souveraineté de Dieu, et Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Mais, bien évidemment, dans notre cas, il y a un coupable, c'est Jonas. Qui nous attire ce malheur? Verset 8. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? On pourrait presque dire, suite à toutes ces questions, se mettre à la place de Jonas en disant, mais écoutez, laissez-moi le temps de répondre à toutes vos questions. Vous êtes en train de m'assaillir avec tout cela. Laissez-moi le temps de vous répondre. Quel empressement. Oui, mais le temps presse. Il faut réagir parce que la tempête sévit. Ils ont commencé à jeter par-dessus bord tout ce qui était lourd pour alléger le navire. Et Jonas va donc devoir s'expliquer. Il va donc devoir confesser, faire son autocritique quelque part. Et c'est ce qu'il va faire. « Je sais, dit-il, que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Bonne réaction du prophète Jonas. Mais peut-il faire autrement? Peut-il faire autrement? Le sort l'a désigné. Il est mis devant tout le monde, comme le coupable. Et il le confesse. « Oui, je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » J'attire notre attention sur le fait qu'il n'est pas toujours facile de reconnaître une faute ou une erreur. Notre ego, en tant qu'enfant de Dieu, s'il n'est pas soumis au Saint-Esprit, se laissera vite dominer par l'orgueil qui peut engendrer dans certains cas l'insolence et le mépris envers le prochain et peut-être même envers Dieu lui-même. Et ceci, nous le comprenons, est un obstacle majeur à la repentance et au pardon. Est-il besoin de rappeler qu'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur, après avoir compris qu'il était notre Sauveur, c'est accepter de mourir à soi-même. Accepter de laisser ce « moi » entre les mains de Dieu. L'Évangile, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. On ne vit pas comme les autres, comme le monde, avec la grâce en plus. Il y a des choses à faire, il y a des confessions à donner, il y a de la repentance dans l'air, toujours. Et encore, et toujours. C'est pourquoi l'Évangile ne sera jamais populaire, parce qu'il nous amène toujours au pied de la croix. Il nous amène toujours à confesser nos fautes, à accepter que nous sommes pécheurs, que nous sommes fautifs. Malheureusement, aujourd'hui, certains veulent accommoder l'Évangile, n'est-ce pas, en faisant en sorte qu'on ne passe pas par ce brisement, cette humiliation qu'est la repentance. On essaie donc de mettre cela de côté et on essaie de vivre bon gré mal gré. Ce n'est pas juste. L'apôtre Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et cela change beaucoup de choses si Christ vit réellement en moi. Particulièrement, je dois venir au pied de la croix quand le Seigneur me le fait comprendre et confesser mon péché. Sans quoi je ne peux pas avancer, je ne peux pas aller plus loin. En même temps, Jonas dort pour ne pas entendre. On peut se demander combien de temps Jonas serait-il resté à fond de cale si le capitaine n'était pas venu le réveiller. Espérait-il, attendait-il que le bateau coule dans cette terrible tempête qui s'était levée? Ou bien espérait-il, attendait-il que Dieu stoppe la tempête en se disant, de toute manière, une tempête naît, une tempête se termine. Tôt ou tard, elle se terminera. Qui va lâcher le premier? Qui aurait lâché le premier? Jonas, Dieu? On sent ce bras de fer entre lui et l'Éternel. Bras de fer qui ira jusqu'au bout, jusqu'à la fin du livre. Nous le verrons au chapitre 4 en particulier. L'isolement spirituel. J'ai envie de dire... Et là, j'extrapole un petit peu, mais peut surprendre le croyant, même celui qui se croit fort. Que celui qui est debout, attention, prenne garde de tomber. On peut, comme Jonas, avoir une réaction de désobéissance à Dieu. On peut l'avoir eu, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Pas d'accord peut-être de s'humilier devant Dieu. Pas d'accord lorsque, en lisant la parole de Dieu, quelque chose se révèle à moi. Et Dieu me demande de le confesser. Pas d'accord lorsqu'un prédicateur dit quelque chose qui me concerne. Je sais que ça vient de Dieu. Alors, et je ne suis pas d'accord pour l'amener au pied de la croix. On peut. Et là, c'est un isolement spirituel qui commence à arriver lorsque je n'obéis pas au Seigneur. Et l'isolement spirituel commence lorsque je fais la sourde oreille à ma conscience. L'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, chapitre 5, verset 11 suivant. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et, dit-il, j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. Où vous en êtes ? Est-ce que vous le savez ? » dit Paul aux Corinthiens. Est-ce que votre conscience continue encore de vous parler ? Et si elle vous parle, est-ce qu'elle vous permet de vous situer, spirituellement parlant, entre ce que Dieu attend de vous dans sa parole et ce que vous faites réellement chaque jour dans l'obéissance à cette parole ? Oui, j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. La conscience, il faut en parler un instant, c'est ce témoin intérieur commun à tous les êtres humains, qu'ils aient la foi ou non, qu'ils aient la loi de Dieu ou non. C'est dans l'épître de Paul aux Romains que nous le comprenons, au chapitre 2, verset 15, où il est dit ceci, je lis à partir du verset 12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. » Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce rôle donc de la conscience est de rappeler aux hommes la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes et témoigne en faveur d'une vérité et d'une justice. La conscience est une faculté donnée à l'homme pour qu'il distingue le bien du mal et qu'il se situe par rapport à cela. C'est, quelqu'un écrivait ceci, j'ai trouvé intéressant, ce qui gratte à l'intérieur quand tout paraît bien à l'extérieur, la conscience. Elle permet donc à chacun de porter une appréciation sur ses propres actes, ses propres paroles, ses propres pensées. C'est une sorte d'instrument de mesure propre à chaque personne. C'est intéressant de remarquer dans un dessin animé de Walt Disney, Pinocchio, qu'il y a tout au long de l'histoire Jiminy Cricket qui est la conscience. C'est intéressant de voir comment l'auteur, c'est pas Walt Disney d'ailleurs, Pinocchio, je me trompe aussi. Ça a été repris par Walt Disney, mais c'est pas Walt Disney. Enfin bref, vous avez cette conscience qui est toujours là avec ce petit garçon qui fait des bêtises en permanence et qui le rappelle. Et lui, il choisit toujours. Mais voilà, attention, qu'est-ce que tu fais ? Chaque fois que nous oublions, que nous profanons nos valeurs ou notre foi, nous souffrons d'une tension intérieure, de ce sentiment de culpabilité qui doit nous pousser à une réaction. Réaction qui sera dictée sur les valeurs que nous avons, et si elles sont bien évidemment ancrées sur la foi, sur la parole même de Dieu, qui nous remettra, au travers de ce qu'elle nous dit, dans le chemin que nous avons quitté. Il y a deux exemples dans la parole qui sont opposés et qui manifestent un petit peu la liberté que nous avons quand la conscience nous travaille. C'est Judas et l'apôtre Pierre. Chacun est repris à un moment donné dans sa conscience. Pour Judas, ce sont les remords qui sont apparus lorsque Jésus a été arrêté et condamné. Comme tout à coup, il venait de prendre conscience ou de se rendre compte ce qu'il avait réellement fait. Il le dit, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ça, c'est le travail de la conscience chez Judas, qui le pousse à dire quelque chose, à affirmer quelque chose d'une vérité. J'ai péché. Pour Pierre, c'est au moment où, après son reniement, dans la cour du souverain sacrificateur, Quand Jésus passe dans cette cour et qu'il croise le regard de Pierre, et au même moment, le coq chante, que Pierre se souvient que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois ». Et là, Pierre réalise ce qu'il a fait dans sa conscience et manifeste la réaction de sa conscience lui le fait manifester par des pleurs. Il pleura amèrement. C'est comme s'il disait j'ai vraiment commis quelque chose d'important, de grave, j'ai péché, j'ai renié le maître. Il pleure. En tant que chrétien, chaque fois que nous commettons intentionnellement un péché ou que nous tombons consciemment dans la tentation, bien que celle-ci ne soit pas un péché, nous en subissons des conséquences. J'ai envie de dire, c'est comme si quelque chose mourait en nous, comme si le péché avait une puissance, bien sûr, de destruction pour tuer des cellules spirituelles saines dans notre organisme. Mais ces deux exemples, Judas et Pierre, nous montrent bien que le réveil de la conscience ne suffit pas pour trouver la paix. Celle-ci va venir de la manière dont nous répondons à l'appel de la conscience et sur la crainte que nous aurons alors de Dieu lui-même. Judas n'a eu aucune larme de tristesse. Il a simplement affirmé « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Et il n'a pas trouvé d'autre solution pour apaiser les échos de sa conscience que de se suicider. C'est ce qu'il a vu de mieux pour lui. Il n'est pas venu voir Jésus pour lui demander pardon, parce qu'il aurait été pardonné, sans aucun problème. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est perdu lui-même. Le pardon était là, mais il ne l'a pas pris. Il n'a pas obéi à sa conscience, il n'a pas été plus loin. Quant à Pierre, lui, oui, sauf que il n'avait plus la possibilité de rencontrer Jésus. Jésus était arrêté. Alors, le texte nous montre dans l'évangile de Jean qu'à la dernière pêche miraculeuse, lorsque Pierre part pêcher avec ses disciples, enfin avec ses amis, à un moment donné, Jésus apparaît et leur dit « Jetez vos filets, tel endroit ». Et les gens se rendent compte que c'est le Seigneur ressuscité. Donc, on est quelques jours plus tard. Et voilà que Pierre saute du bateau, le premier, parce qu'il voulait vraiment parler avec Jésus. On le sent dans le contexte du livre. Pierre veut voir Jésus, qu'il a quitté à des moments dramatiques, dans la cour du souverain sacrificateur. Il espère pouvoir dire à Jésus quelque chose, pouvoir entendre Jésus lui parler. Mais ça ne se fera pas tout de suite. Ce n'est qu'au moment du repas que Jésus dira à Pierre. Vous connaissez ce dialogue très très fort et très très prenant. « Pierre, m'aimes-tu ?» Une fois. Pierre, m'aimes-tu 2 fois. Pierre, m'aimes-tu 3 fois. Pourquoi 3 fois? Et à chaque fois, Pierre va répondre, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Pierre comprend à la 3e fois. Parce que la 3e fois, il rajoute une parole qui est intéressante. Il dit, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce toutes choses? Tu sais ce que j'ai fait. Je t'ai renié 3 fois. 3 fois, tu m'as demandé si je t'aimais. Je t'ai répondu, mais tu sais toutes choses. Et chaque fois, Jésus lui a dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. C'est-à-dire, je te refais confiance. Je connais ton cœur. Oui, je sais que tu m'aimes. Tu es venu vers moi, tu as voulu me parler. La conscience de Pierre l'a poussé. En tout cas, il a accepté d'aller jusqu'à l'humiliation, jusqu'à se briser devant les disciples, devant les autres. Alors que c'était un gars quand même assez orgueilleux. Oui, nous comprenons donc que pour le chrétien, la conscience est une aptitude qui a la tâche de rectifier, de réprimander, de mettre mal à l'aise lorsque nous perdons le contact avec Dieu, et cela nous arrive. La conscience est comme une fenêtre à l'esprit par laquelle la lumière d'en haut vient mettre en évidence nos défaillances ou les fautes, chaque fois que nos pensées, chaque fois que nos paroles, chaque fois que nos actes ne sont pas en accord avec ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi, et je vais un petit peu plus loin, le diable va tout faire pour que nous fassions taire notre conscience. Ça, c'est son boulot. Et croyez-moi, et je pense que vous le savez aussi, il s'est bien manœuvré. Je suis tombé sur cette petite histoire que j'ai lue dans un, je sais plus où d'ailleurs, je crois que c'était dans des calendriers, c'était pas méditation quotidienne, c'était ailleurs, qui va un petit peu à argumenter cela. Un homme dormait tandis que des cambrioleurs cherchaient à s'introduire dans sa maison. Le chien attaché dans la cour se mit à aboyer, normal. Impossible de dormir, tranquille, marmonna le maître, en se retournant dans son lit. Mais le chien aboyait de plus belle, et pour cause, il y avait des cambrioleurs qui arrivaient chez lui. Alors l'homme, exaspéré, se leva et voulut imposer silence à la bête, sans se rendre compte du pourquoi elle aboyait. Rien à faire, le chien continuait d'hurler toujours. Hors de lui, le maître décroche son fusil et tue le chien, et il se recouche. Maintenant, se dit-il, je vais dormir tranquille. Effectivement, il dort tranquille. Sauf que les cambrioleurs ont cambriolé la maison. On peut sourire face à l'absurdité de la situation de cet homme, hein. Mais qui sait si nous ne faisons pas parfois comme lui? Quand notre conscience nous rappelle que nous sommes pécheurs ou que nous avons commis telle ou telle chose, bien loin d'accomplir parfois la loi de Dieu, nous voulons imposer silence à notre conscience. Nous avons peut-être une Bible, bien évidemment, et je sais que vous en avez une chez vous, mais nous ne prenons pas garde à ce qu'elle nous dit, parce que nous n'acceptons pas la remise en question, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, peut-être nous sommes un peu comme lui, parfois nous prenons le fusil et nous tirons pour tuer la voix de la conscience, parce qu'on ne veut pas obéir au Seigneur. Alors comment le diable se sert pour amener le croyant à essayer de faire taire sa conscience? Eh bien, je vois trois amorces par lesquelles il essaie de nous avoir. La première chose, c'est en essayant d'oublier. Un peu comme, je crois, voudrait essayer de faire Jonas. On veut oublier, sachant pertinemment que ce que nous avons commis ou pensé est pour Dieu mauvais, péché. La phrase un peu vite lâchée, « Oh, il faut laisser du temps au temps », souhaitant que le temps effacera peut-être les choses, ne fait qu'aggraver la situation, bien évidemment. Ou peut-être que l'on parviendra à oublier un temps, la faute, la gravité, ses conséquences. Mais pensons-nous que pour Dieu, c'est effacé? Rien à faire. Rien n'est caché, dit la parole de Dieu, aux yeux de celui à qui nous devrons un jour rendre compte. Rien n'est caché. Sauf s'il y a eu repentance. Alors là, tout est effacé. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Cette repentance dont j'ai déjà parlé, et j'en parle assez souvent dans mes interventions parce qu'elle me paraît vraiment capitale dans notre monde d'aujourd'hui, parce qu'on en parle peu, peut-être trop peu dans l'Église même aujourd'hui. Vous savez, de jeune converti à celui qui est plus vieux dans la foi, quel est celui qui doit se repentir le plus normalement? C'est le plus ancien dans la foi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a appris normalement à connaître qui est Dieu, à savoir 3 fois saint. On ne peut pas demander à un jeune converti de faire des choses qu'il ne réalise pas, s'il n'a pas compris ou vraiment senti et discerné à qui il a affaire. Mais quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, 3 fois saint, aura beaucoup plus et devrait avoir beaucoup plus de facilité à venir au pied de la croix, chaque fois que c'est nécessaire. Parce que la repentance, c'est l'expression d'un vif regret, avec l'intention de ne pas recommencer, bien évidemment. C'est par elle que je deviens enfant de Dieu, mais c'est aussi par elle que je continue de grandir en tant qu'enfant de Dieu. C'est la base. Faire taire à sa conscience, c'est s'opposer à la repentance. Je pense aussi à Luc, qui dans son écrit des Actes des Apôtres rapporte cette parole de Pierre qui se met à prêcher après l'effusion de l'Esprit et qui raconte Jésus et ce qu'il a fait. Et les auditeurs qui entendent l'histoire de Jésus, machinalement, disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Que devons-nous faire face à cette merveilleuse histoire que tu nous as racontée? Et face à la croix de Jésus. Et la première réaction de Pierre, ça a été « Repentez-vous. Commencez par ça. Et soyez baptisés. Mais d'abord, repentez-vous. » Vous savez, lorsque le roi David, dans ce cadre d'essayer d'oublier, le diable a bien essayé de le faire travailler dans ce sens-là. Quand il a commis la convoitise, l'adultère et le meurtre. Là encore, on est un petit peu dans la même situation que Jonas. On se dit, mais comment David, un homme aussi proche de Dieu, on peut lire les psaumes, a-t-il pu tomber si bas? Eh bien, David, aussi spirituel qu'il puisse être, a essayé de taire sa conscience. Il n'a pas voulu que les choses se sachent, d'où le meurtre du riz, entre autres, pour faire croire que l'enfant qu'il avait fait à Bathsheba par l'adultère était bel et bien de lui. Il l'a fait venir de l'armée, il a essayé de le faire coucher avec sa femme, etc. Il n'a pas voulu, et donc il a été obligé de le faire tuer et de vite prendre Bathsheba chez lui comme femme pour montrer à tout le peuple que l'enfant, quelque part, eh bien, c'est normal, c'est l'enfant de lui, mais il l'avait pris pour femme, mais ce n'était pas le cas. Stratagème, hein? Eh bien, psaume 32, David écrit, après avoir réglé ce problème avec Dieu, bien sûr, hein, « Tant que je me suis tu, et il s'est tu, mes os se consumaient, nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et il a même fallu un stratagème de la part de Dieu lui-même pour que David puisse, dans sa conscience, se laisser interpeller, parce qu'il s'était laissé endormir par l'ennemi, jusqu'où il aurait été si Nathan le prophète n'était pas intervenu. Tant que je me suis tu. La deuxième piège dans lequel le diable veut nous faire tomber pour endormir notre conscience, c'est en se donnant bonne conscience. Se trouver des bonnes excuses, des concours de circonstances qui font dire, après tout, et tout bien pensé, ben, ce n'est pas ma faute. Il ou elle l'a bien cherché. Par exemple, je me suis mis en colère. Ou bien, Dieu sait que je suis faible à ce sujet. C'est mon péché mignon. C'est mon jardin secret. Je ne peux pas m'en passer. Dieu le sait. Je ne veux pas m'en passer. Il ne faudra pas alors s'étonner que tel péché sera régulièrement commis et que la croissance spirituelle restera au point mort. Exhortez-vous, dit la parole de Dieu, les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse dans la séduction du péché. Confession, partage, importance de l'Église, importance des frères et sœurs, qui vont nous interpeller aussi. Mais aussi, on peut se donner bonne conscience en se disant que tout le monde le fait. Alors, puisque tout le monde le fait, c'est que ce n'est pas si finalement mauvais que cela, n'est-ce pas? Je pense à l'infidélité, au milieu, dans notre monde d'aujourd'hui, pour ne citer qu'elle. Voilà un mot qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. On a fait des téléfilms, l'adultère est mis au pinacle, et à force de voir tout cela, d'entendre des choses et de laisser faire, eh bien, ça devient tellement banal, parce que tout le monde le fait. Et même dans l'Église, on peut tomber dans cette même pensée. Attention. Le monde affirme que la majorité a forcément raison. Non, l'esprit de l'Écriture et l'esprit de la parole de Dieu est tout autre. C'est dans la minorité que s'affirme notre foi. C'est à contre-courant que l'enfant de Dieu va apprendre à vivre sa foi dans ce monde. Et nous le savons, c'est comme ça. C'est pas facile, n'est-ce pas? Marcher à contre-courant. Attention de ne pas nous donner une bonne conscience par tous ces prétextes et ces excuses. Et puis peut-être un troisième point, comment le diable endort notre conscience, et là nous sommes peut-être encore plus concernés en tant que chrétiens, enfants de Dieu, c'est peut-être aussi en interprétant les Écritures, en prenant des versets un petit peu hors contexte, qui vont nous tranquilliser, qui vont peut-être même annuler tel péché ou telle faute. Car on peut faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. On peut prétexter par la Bible beaucoup de choses. Attention, ceci est grave. Car on cherche à faire passer Dieu pour ce qu'il n'est pas, en cherchant à faire dire à sa parole ce qu'elle n'a jamais dite. Par mauvaise foi, tout peut se justifier. Le diable, d'ailleurs, avait commencé exactement par cela dans le jardin d'Éden. C'est la parole de Dieu qui l'a mis en doute à Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Question du diable à Ève. Tu sais ce qu'il a dit, Dieu ? Parce que Ève répond : Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger du fruit défendu. Oui, mais Dieu a-t-il réellement voulu dire ça ? Et voilà que, confronté à ce réellement, c'est le doute qui commence à arriver. Chaque fois que je lis la Bible et que je suis repris, et que je me dis, est-ce que vraiment Dieu a voulu dire ça ? C'est que je commence déjà à refuser, inconsciemment peut-être au départ, de me laisser interpeller par cette parole. Je peux me la poser la question, bien évidemment, mais attention, je suis sur un terrain glissant. Je peux aller trop loin en disant non, finalement, ce n'est pas pour moi. Dieu n'a pas voulu réellement dire ça. Parfois, prenons les choses telles qu'elles nous viennent, telles que le Saint-Esprit les met à notre esprit, et obéissons-y simplement, comme des petits-enfants. Soyons de petits-enfants entre les mains de Dieu. Car lorsque le réellement a bon écho, c'est la porte ouverte à tout. Nous avons une image de Dieu qui peut devenir floue à cause du réellement. Nous connaissons Dieu tel qu'il est parce que nous l'avons appris, nous avons lu, donc nous avons telle image, et elle nous paraît comme ceci, comme cela, et ce réellement la rend opaque. Je ne sais plus qui est Dieu. Ou je peux ne plus savoir qui est Dieu. N'oublions jamais une chose, et nous le verrons dans le cas de Jonas à nouveau, ce soir et demain en particulier, le Seigneur aime le pécheur. Mais il est, H-A-I-T, le péché. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le Seigneur nous aime et nous aimera, toujours. Et il n'y a pas de grave situation que Dieu ne peut enlever, que Dieu ne peut pardonner. Combien on peut entendre parfois des personnes dire, même dans l'Église, « J'ai été trop loin, Dieu ne me pardonnera pas. » Quelle erreur ! Quelle erreur ! Non, Dieu peut pardonner. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu aurait pardonné à Judas, j'en suis convaincu. Mais encore faut-il le vouloir. Encore faut-il le croire. Jonas, oui, ce qu'il fait, et vous verrez que il va aller plus loin encore, au chapitre 4 en particulier. C'est grave, quelque part. Mais Dieu l'aime. Dieu aime son prophète. Et il va essayer toujours de l'amener là où il veut le conduire. À la fois pour son bien et pour celui des gens de Ninive qui l'attendent là-bas, sans le savoir. Et puis enfin, Jonas, bien évidemment, va se réveiller de sa torpeur. Je crois que Jonas, son réveil, il ne le souhaite pas trop tôt. Et on le comprend. Mais en fait, ce n'est pas lui qui prend l'initiative de se réveiller. C'est Dieu lui-même qui intervient en utilisant la tempête pour le secouer et alerter les marins et le capitaine du navire qui descend à fond de cale et qui va lui dire « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Agis-toi aussi. Viens avec nous. Monte là-haut. » Ah oui, Dieu a d'innombrables moyens pour réveiller les consciences endormies. Hein. Il a plus d'une corde à son arc et elles peuvent nous surprendre, ces cordes. mais que nul ne résiste encore une fois à cette prise de conscience que nous venons de voir. La main de Dieu qui intervient est salutaire pour quiconque y prend garde et agit en conséquence. Et c'est lorsqu'il est apostrophé par le capitaine que Jonas, j'ai envie de dire quelque part, va revenir à la réalité et s'aperçoit qu'il fait partie intégrante du navire. Son isolement n'a pas produit peut-être ce qu'il espérait, à savoir un changement de situation. Ses soucis sont toujours là, son nom est toujours là, et en plus, il sait qu'il a mis en danger la vie de tous les autres passagers du bateau. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. C'est à cause de moi que nous allons peut-être mourir. Et c'est pour cela que la question qui fuse et qui vient tout de suite de la part des marins, que te ferons-nous à toi pour que la mer se calme ? Puisque tu dis que c'est à cause de toi qu'il y a la tempête, fais quelque chose. Et si tu ne peux pas faire quelque chose, est-ce que nous on peut faire quelque chose contre toi? Et c'est là que Jonas donne une parole complètement insensée. Eh bien, c'est pas compliqué. La solution, je l'ai. Jetez-moi à la mer. Et la mer se calmera envers vous. Alors, ou bien il n'est pas réveillé, ou bien il est inconscient. Parce qu'au moment où il parle, la mer est toujours démontée. Donc, ce qui veut dire quoi? Que s'il le jette à l'eau, il est mort. C'est la noyade assurée. Quel homme, pourrait-on dire, hein? Quel homme, ce Jonas? Se sacrifier de la sorte pour sauver les autres. C'est moi le problème sur le bateau. Si je suis plus sur le bateau, il n'y a plus de problème. Alors, hop, jetez-moi hors du bateau et vous serez sauvés. Lorsqu'il propose d'être jeté à la mer, je l'affirme par rapport à l'ensemble du livre, et nous le verrons encore, je m'excuse, j'ai dit souvent ça, mais bon, moi je suis un peu plus avancé que vous, je l'ai quand même travaillé, donc voilà, vous allez voir, vous le comprendrez facilement, mais je suis convaincu par l'ensemble du livre que Jonas veut en finir. Jonas veut mourir. Et comme il n'est pas, il ne va pas aller lui-même à se jeter à l'eau, il propose aux marins de le faire à leur place, à sa place. C'est un bras de fer qui continue entre lui et Dieu. Il n'a pas cessé ce bras de fer depuis qu'il s'est embarqué à Jaffa. Jetez-moi à la mer et la mer se calmera envers vous. Qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette affaire. Je préfère, dit Jonas à Dieu, encore mourir noyé ici que d'aller à Ninive faire ce que tu me demandes de faire. Et là, on discerne encore son entêtement et l'espoir de fuir cette mission qu'il ne peut et ne veut accepter. Jonas pense trouver une opportunité pour échapper à Dieu face à la mort ou avec la mort. Un peu comme Judas. Et nous verrons que c'est chez lui une idée fixe, particulièrement lorsque nous verrons sa réaction face à la conversion des Ninivites, où il demandera, et je le redirai demain matin, deux fois. La mort. C'est une idée fixe chez lui. Mais en même temps, et c'est là un paradoxe qui est intéressant, je crois que Jonas est aussi inspiré. Il nous pousse à mettre en avant ce que j'appellerais une première préfiguration de Jésus-Christ lui-même, au travers de Jonas. Et nous en verrons deux autres préfigurations. Quelqu'un un jour a dit que l'Ancien Testament, c'est comme une fleur en bouton, et le Nouveau Testament, c'est la fleur qui s'ouvre et qui exhale le parfum de la grâce. Jésus-Christ est le parfum de Dieu pour tous les hommes. Il est manifesté dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, de beaucoup de manières. Et ici, ce que je veux mettre en avant, c'est l'idée de substitution qui nous renvoie au message de l'Évangile. Jonas offre sa vie pour sauver celle des marins. Je veux mourir, mais là, il le souhaite lui, bien évidemment. Je veux mourir parce que je ne veux pas aller à la mission, mais en même temps, par ma mort, la mer se calmera, j'en suis convaincu, parce que c'est à cause de moi qu'elle est attirée, et vous serez sauvés. Vous ne sombrerez pas avec le bateau. Car le texte nous dit bien, à la fin du chapitre 1, que ça ballottait dur, hein. Le bateau menacé. Et c'est pour ça qu'il fallait se dépêcher. Jonas, quelque part, va offrir sa vie pour sauver les marins, mais en même temps, il est content de l'offrir parce qu'il veut mourir. Donc, vous voyez, il y a quand même, c'est pas très net dans la pensée. C'est pour ça que la préfiguration n'est pas parfaite, et de loin s'en faut. Mais il y a une idée intéressante ici de substitution. Moi, pour vous, bien que ce soit à cause de moi que vous en êtes là. Ce qui est complètement opposé à la situation même de Jésus, n'est-ce pas ? Qui, lui, a obéi au Père. Il est mort à notre place. Il a pris notre place sur la croix, substitution, par obéissance au Père. C'est pour ça que la préfiguration n'est pas parfaite. Alors que Jonas, lui, c'est à cause de sa désobéissance qu'il se trouve dans cette situation et qu'il veut échapper à sa mission par la mort. Et en même temps, cette mort libère les autres. Je pense à un cas qui est un petit peu similaire mais opposé, c'est celui de l'apôtre Paul, qui, partant à Rome, emprisonné, va se retrouver dans une tempête. Et au milieu de la tempête, les marins commencent à mettre la chaloupe à l'eau, et ils veulent vite essayer de partir. Et Paul leur dit, s'il vous plaît, tous ceux qui sortiront de ce bateau mourront, car Dieu m'amène à Rome et autour de moi, vous ne risquez rien. Par obéissance à Christ, Paul se trouvait là. C'est l'opposé de Jonas, hein, où Jonas, lui, à cause de lui, tous les marins vont mourir. Mais grâce à Paul, tous ceux qui sont sur le bateau vont vivre et ont vécu. Nous comprenons cette préfiguration et vous verrez les deux autres et comment en conclusion on va lier un petit peu tout cela. Le coupable qui s'offre en sacrifice alors que Jésus est l'homme juste qui s'offre en sacrifice pour nos péchés. Oui, Jonas quelque part ici nous annonce quelque chose, nous prépare quelque chose que nous connaissons maintenant dans le Nouveau Testament. Alors pour préciser encore juste un texte, c'est Hébreux 10 pour ceux qui peut-être prennent des notes au chapitre donc 10 versets 1 à 9 où quand le Père, on imagine un petit peu j'imagine un petit peu ce dialogue entre le Père et le Fils dans le ciel, où le Père pourrait dire au Fils, il faut que tu descendes et il faut que tu te sacrifies, toi l'agneau parfait pour les hommes. C'est là mon plan. Et verset 5, il nous est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hein? Et ainsi, Jésus s'offre et descend sur la terre en sacrifice sur la croix pour nous, pécheurs, qui aurions dû être à sa place. Volontairement, il obéit au Père. Je m'offre en sacrifice. Et puis, en terminant, nous allons remarquer que la tempête s'apaise. J'ai presque envie de dire, presque aussitôt, où Jonas est jeté à l'eau, parce que tu veux aller à l'eau ? Pas de problème. Ils l'ont jeté à l'eau. Ça veut dire que pour les marins, quelque part, ils le tuent. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Et encore moins Jonas. Ok, si c'est ça la solution, il n'y a pas de problème. Et ils le balancent à l'eau. Et au moment où Jonas, enfin, je pense que ça s'est pas fait à l'immédiat, mais en tout cas très très vite, le vent a commencé à cesser et la mer a commencé à se calmer. La solution était la bonne. Et il ne pouvait pas y en avoir une autre. Le Nouveau Testament nous affirme que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est la seule solution pour apaiser les tempêtes de notre vie. La plus terrible des tempêtes étant celle de savoir que notre péché nous coupe de Dieu et que nous ne savons plus quoi faire face à ce péché qui nous coupe de Dieu. Rester dans cet état jusqu'à sa mort, c'est dramatique. Or, Christ, entrant dans le monde, a dit « Voici, je viens pour faire ta volonté et pour pardonner le péché à quiconque me demandera pardon. » Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie et la vie éternelle. Le calme revient, une fois le prophète à l'eau. Et les marins sont tellement impressionnés par ce calme, soudain, qu'à nouveau, ils le considèrent comme un miracle. Tout comme la tempête qui avait démarré. Et cette fois, remarquez ce qui se passe. Au début de la tempête, tout le monde était sommé de prier son Dieu, parce qu'il ne faut pas le manquer, hein, lequel a été offensé, et ils avaient raison, parce qu'il y en avait bien un qui était offensé. Ils ne le connaissaient pas. Et à la fin du texte, verset 16, « Ces hommes eurent une frayeur et une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. » Ils sacrifient pour lui, ils remercient quelque part ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas et que Jonas est venu leur présenter sans le vouloir. Sans le vouloir. Jonas fut à ce titre-là et à ce moment précis, et il le sera une deuxième fois d'ailleurs à Ninive, mais d'une autre façon, un évangéliste sans le savoir. Hein? Ce Dieu auquel je tourne le dos, je vous l'ai présenté. Regardez sa puissance. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il peut faire dans votre vie. Il peut apaiser les tempêtes. Et ô combien Jésus, nous l'avons vu et nous le savons dans le Nouveau Testament, va aussi agir de cette manière-là et apaiser les tempêtes physiques, littérales, mais aussi celles du cœur, celles du péché qui est là au fond de nous. Voilà donc un petit peu ce chapitre premier brossé. Il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à sortir, à préciser. Mais voilà, comment j'ai senti un petit peu les choses. J'espère que j'ai été clair. Et nous verrons ce soir comment Dieu va intervenir à nouveau pour faire résonner Jonas et le faire entrer vraiment dans le plan qu'il a prévu pour lui, à savoir aller à Ninive, la grande ville. Amen. Et je vous invite encore à prier simplement. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce encore pour cette histoire et nous sommes conscients de l'importance encore de ces textes. Combien tu veux, Seigneur, nous parler, nous encourager et nous reprendre aussi, Seigneur, particulièrement dans ce thème de la désobéissance qui peut nous surprendre, dans lequel nous pouvons tomber aussi. Et Seigneur, si peut-être cet après-midi, certains se sont rendus compte de cela, eh bien qu'ils puissent réellement venir à toi, et sincèrement et dans tout leur cœur, te demander pardon. Seigneur, merci pour l'exemple de ce prophète, qui à ce titre-là n'est peut-être pas un bon exemple. Merci Seigneur de ce que tu veux aussi nous interpeller par sa situation. Que ton nom soit béni, Seigneur, et veuille préparer encore nos cœurs à la suite de ce récit, à tout ce que tu veux encore nous donner, pour que nous puissions apprendre de ce livre. Que ton nom soit loué en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.